Et à présent, place au journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Anne Verdaguet. Bonjour.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, le Venezuela, avec l'annonce attendue de Nicolas Maduro, le président vénézuélien veut entamer une profonde réorganisation de son gouvernement. De son côté, l'opposant Juan Guaido a débuté une tournée à travers le pays qu'il promet de conduire jusqu'au palais présidentiel. On parlera également des malheurs de Boeing qui annonce une refonte de son logiciel mis en cause dans la catastrophe aérienne d'Ethiopian Airlines la semaine dernière. Et puis notre invité sera Valadao Alfredo, professeur à l'école des affaires internationales de Sciences Po et spécialiste du Brésil, nous parlera de la visite de Jair Bolsonaro aux États-Unis. Mais on va d'abord parler de ces heurts au Venezuela entre Porro et anti-Maduro dans un hôpital du nord-ouest du pays. Cela s'est passé hier alors que l'établissement attendait la mission des Nations Unies mandatée par Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme. Une mission qui déchaîne toutes les passions au Venezuela car de nombreux opposants craignent que le gouvernement de Nicolas Maduro essaye de lui cacher l'ampleur de la crise que traverse le pays. La correspondance à Caracas de Benjamin Delisle.
Depuis près d'une semaine, la mission technique des Nations Unies sillonne le Venezuela avec un programme chargé. Et à chacune de ces étapes, de nombreux opposants se rassemblent pour tenter de montrer aux membres de la mission l'ampleur de la crise vénézuélienne. Plusieurs d'entre eux, dont des médecins, ont été pris pour cible ce dimanche par un groupe de personnes qui leur a lancé des pierres alors qu'ils attendaient devant un hôpital de Barquisimeto. Selon Jaime Lorenzo de l'ONG Médicos Unidos, les assaillants étaient tous des partisans de Nicolas Maduro. Malgré cet incident, la visite des représentants de l'ONU a pu se dérouler sans problème, mais cela témoigne de la tension qui règne autour de cette mission. De nombreuses ONG accusent Nicolas Maduro de tenter de lui camoufler ce qui se passe réellement dans le pays, notamment dans les hôpitaux. Le but de la mission est de préparer une éventuelle visite de Michelle Bachelet, invitée en novembre dernier. Mais depuis plusieurs semaines, la haut-commissaire aux droits de l'homme est l'objet de nombreuses critiques de l'opposition vénézuélienne qui l'accuse de ne pas condamner assez fermement le gouvernement de Nicolas Maduro. Benjamin Delisle, Caracas. RFI.
Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous. On vous retrouve
pour la revue de presse des Amériques à la une ce lundi, donc le Venezuela, où le président Nicolas Maduro, je vous le disais, a demandé hier à ses ministres de remettre en ordre leurs ministères respectifs en vue d'une profonde réorganisation, comme l'a expliqué la vice-présidente Delcy Rodriguez.
Oui, une information qui a été rendue publique dimanche soir sans que l'on sache quand aura lieu cette réorganisation. Mais comme l'a expliqué la vice-présidente sur les réseaux sociaux, il s'agit, je cite, de blinder la patrie de Bolivar et Chavez face à toute menace, comme le détaille Ultimas Noticias, quotidien proche du pouvoir. Selon Efecto Cucuyo, site d'information proche de l'opposition, cette annonce a été interprétée comme un appel au groupe de choc face à une menace de coup d'État. Une annonce qui coïncide, selon ce site d'information, avec le début d'une tournée nationale du président autoproclamé de transition, Juan Guaido.
Juan Guaido, Romain, qui était hier dans l'état de Vargas et qui appelle ses concitoyens à poursuivre avec le mouvement de désobéissance.
Oui, selon la Patilla, Juan Guaido, qui a donc entamé cette tournée régionale, exhorte ses concitoyens à ne pas baisser les bras et surtout à ne pas croire la propagande des autorités qui n'ont eu de cesse d'accuser l'opposition d'être derrière les coupures d'eau et d'électricité qui ont frappé le pays pendant plusieurs jours la semaine dernière. Juan Guaido qui a aussi une nouvelle fois appelé les soldats à désobéir et à rejoindre les rangs des opposants.
Des militaires qui sont toujours les bienvenus selon les autorités colombiennes.
Oui, une information que l'on retrouve dans de nombreux quotidiens, comme s'il s'agissait d'une opération de communication. Les autorités colombiennes, comme l'explique le journal Dos Mil Uno, ont mis en place des procédures qui permettent d'offrir les meilleures garanties aux membres de l'armée vénézuélienne qui souhaitent déserter. Selon Dos Mil Uno, depuis le 23 février dernier, quelques 1000 soldats vénézuéliens ont été pris en charge du côté colombien de la frontière. Des soldats qui bénéficient d'un examen médical, d'une aide légale, d'un logement et d'une aide alimentaire. Les autorités colombiennes ont annoncé hier que la plupart de ces soldats demandent l'asile, ce qui leur permet d'obtenir un sauf-conduit qui les autorise à rester sur le territoire colombien. Une communication qui vise à convaincre d'autres soldats à quitter leur rang.
On reste en Colombie, Romain, où aujourd'hui une forte mobilisation est attendue dans les rues de Bogota pour soutenir la justice transitionnelle dans le cadre de l'accord de paix avec les FARC.
Oui, selon El Tiempo, cette manifestation devrait rassembler beaucoup de monde dans les rues de la capitale colombienne. Le but est de faire pression sur le Congrès pour que ce dernier ne valide pas les amendements que souhaiterait faire adopter le gouvernement d'Ivan Duque. Ce dernier juge ce système de justice parallèle trop laxiste avec les anciens guerrilleros et souhaite donc durcir les conditions préalables pour éviter que d'anciens un combattant ne soit exonéré de peine de prison ferme. D'autres manifestations sont également prévues dans les principales villes du pays, selon El Tiempo, qui précise que la diaspora colombienne compte également participer à cette grande mobilisation.
Direction le Nicaragua à présent. Si les autorités ont bien libéré plus d'une centaine de prisonniers politiques ce week-end, comme le réclamait l'opposition dans l'optique du dialogue national, elles ont aussi arrêté de nombreux manifestants, ce qui met en péril la poursuite de ces discussions, Romain.
Oui, le quotidien La Prensa raconte le moment de joie samedi soir lorsqu'une centaine de prisonniers ont été libérés, la plupart d'entre eux étant des étudiants qui avaient manifesté pour réclamer le départ de Daniel Ortega. Mais cet instant de bonheur pour les proches de ces détenus a été de courte durée, puisque les autorités ont procédé à l'arrestation de 164 autres personnes ce même samedi lors de manifestations pour réclamer justement la libération des prisonniers politiques, toujours selon La Prensa. Une situation qui met donc en péril la poursuite du dialogue national entamé la semaine dernière entre les autorités et l'Alliance civique, comme l'explique Macreles dans les pages du quotidien Hoy. Résultat, à l'heure actuelle, on ne sait pas si le dialogue reprendra ce lundi. L'opposition dit continuer à réfléchir, selon le quotidien Hoy.
Enfin, avant de se quitter, en Argentine, l'arrestation de deux Iraniens fait couler beaucoup d'encre.
Une information qui fait même la une de la presse nationale ce lundi. Ce couple d'Iraniens est entré en Argentine le 12 mars dernier en provenance d'Espagne, raconte Clarine. Ils sont entrés avec de faux passeports israéliens, selon les autorités argentines qui ont procédé à leur arrestation samedi matin. Auparavant, ils avaient utilisé deux autres faux passeports pour quitter l'Espagne, ce qui soulève de nombreuses questions, car les faux papiers coûtent cher et ne sont pas simples à obtenir. Ces deux citoyens iraniens qui ne parlent pas un mot d'espagnol, selon Clarine, vont être interrogés ce matin. D'après le quotidien, ils auraient précisé avoir fui leur pays pour des raisons politiques. Les autorités expliquent qu'elles vont vérifier leur histoire, mais ne semblent pas croire à leur version. Une affaire qui tient en haleine le pays, comme le démontre la place qu'occupe cette histoire dans les éditions de ce lundi matin.
Merci Romain Le Maresky pour cette revue de presse des Amériques. On va reparler à présent des déboires de Boeing aux États-Unis. L'avionneur est dans la tourmente depuis le crash aérien de l'Ethiopian Airlines il y a une semaine et dit être sur le point de finaliser une correction importante sur ses avions 737 MAX. C'est le MCAS, un logiciel de stabilisation en vol censé éviter un décrochage de l'avion. En attendant les conclusions définitives des enquêtes, le système installé sur l'appareil a été mis en cause dans l'accident de la semaine dernière, mais aussi dans celui qui a eu lieu au large de l'Indonésie fin octobre. Critiqué pour la gestion de la crise, l'avionneur se devait d'apporter au plus vite des réponses. À New York, Grégoire Pourtier.
Conçu spécialement pour les avions 737 MAX, le MCAS est-il le responsable des deux crashs récents ? Le logiciel est en tout cas au centre des critiques, alors qu'il était censé apporter une solution pour les nouveaux engins plus gros et plus lourds. C'est carrément sa certification par la FAA, le régulateur du transport aérien américain, qui est aujourd'hui sujette à caution, certains experts dénonçant un rapport d'analyse fait à la va-vite et truffé d'erreurs. Les problèmes pourront-ils être réglés ? La FAA a exigé des modifications rapides d'ici avril. Les correctifs sont censés être simples à installer et la formation des pilotes à ce système sera aussi revue. En attendant les conclusions définitives de l'enquête qui pointent des similarités entre les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines, Boeing va en tout cas devoir cravacher pour redorer son blason. Car si la société américaine a perdu près de 25 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis une semaine, c'est surtout son image qui en a pris un coup. Tardant à réagir, elle a finalement vu tous ses avions 737 MAX cloués au sol de force jour après jour dans le monde et finalement aux États-Unis. Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Le président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est arrivé hier à Washington pour une visite de 3 jours. C'est son premier voyage à l'étranger pour une rencontre bilatérale, d'habitude réservée à l'Argentine. Mais Jair Bolsonaro n'a jamais caché son admiration pour Donald Trump. Hier soir, il a dîné avec plusieurs invités, dont Steve Bannon, l'ancien conseiller du président américain. Selon Jair Bolsonaro, l'objectif de cette visite est de sceller une alliance pour la liberté avec Donald Trump. En quoi pourrait consister cette alliance ? Arim Lipold a posé la question à Alfredo Valada, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste du Brésil.
Bon, d'abord, il ne s'agit pas encore d'une alliance. C'est peut-être un premier pas vers une alliance de ce type. Pendant la campagne électorale à la présidence, Jair Bolsonaro avait dit que la priorité serait aux États-Unis. Donc ce n'est pas une surprise. Il y va, c'est la première grande visite à l'étranger qu'il fait. Il essaye de mettre en place quelque chose qui, depuis longtemps, n'avait pas lieu. Donc c'est un vrai changement de cap vis-à-vis de ses deux prédécesseurs. Il y a une série de thèmes qui sont sur la table, évidemment le Venezuela, C'est-à-dire que les deux pays pensent qu'il est temps que Monsieur Maduro laisse le pouvoir. Il y a encore quelques divergences entre les deux dans la mesure où les États-Unis sont beaucoup plus agressifs et disent que même l'option militaire reste une possibilité.
Oui, alors que le Brésil, excusez-moi, ne veut surtout pas d'une intervention militaire dans le pays voisin. Alors est-ce que ce rejet, ce refus catégorique affaiblit un petit peu la position américaine ?
Non, je ne pense pas, parce que je ne pense pas que les Américains aient la moindre intention de faire une intervention militaire au Venezuela. C'est une manière de faire pression, simplement. Ce qui se passe, c'est qu'au Brésil, vous avez... Si vous voulez, cette relation avec les États-Unis doit passer par des contradictions internes qui peuvent être assez fortes. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez des idéologues du gouvernement qui pensent que la globalisation est un complot communiste, qu'il faut être idéologiquement proche de Trump, par exemple, comme le ministre des Affaires étrangères. De l'autre côté, vous avez les militaires brésiliens qui, eux, sont extrêmement pragmatiques et qui veulent maintenir un minimum d'autonomie stratégique du Brésil, et donc sont totalement réticents et même contraires à toute intervention militaire à partir du territoire brésilien. Et puis vous avez aussi l'équipe économique qui, elle, est beaucoup plus pragmatique et qui doit tenir compte des intérêts brésiliens économiques dans le monde, de la Chine aux États-Unis, etc. Donc on ne sait pas encore comment... Tout ça va jouer à l'intérieur du Brésil, en fonction de la politique intérieure. Mais il est vrai qu'il y a, entre les États-Unis et le Brésil aujourd'hui, un consensus sur qu'il faut faire plus de pression sur Maduro.
Alfredo Valadao, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, au micro de Darim Lipold. On reste au Brésil, près de deux mois après la tragique rupture du barrage de Brumadinho qui a fait plus de 300 morts et disparu dans l'état de Minas Gerais. L'enquête est toujours en cours. Une dizaine de salariés de l'entreprise minière qui gérait le barrage, la Vale, sont auditionnés et son président a temporairement renoncé à ses fonctions. Plusieurs documents montrent que le premier producteur mondial de fer était conscient du risque élevé d'effondrement du barrage, mais aucune mesure n'a été prise, aucun plan d'urgence n'a fonctionné et les rapports de conformité aux normes ont été falsifiés. À Brumadinho, les habitants et les associations réclament justice. Le reportage de Sarah Cozzolino.
Pour nous, la mine était une bénédiction. Mais à cause de la corruption, cette bénédiction s'est transformée en tragédie.
Flavia Coelho a perdu son père dans la rupture du barrage de Brumadinho. Après 40 ans de travail dans l'infrastructure et la sécurité de la mine, il était devenu indispensable. Mais quand l'année dernière, il avertit à plusieurs reprises les responsables de la mine des risques d'effondrement du barrage, il ne sera pas écouté.
On est venu lui parler, le calmer, lui dire que tous les salariés pouvaient rester, que le problème allait être réglé. Et malheureusement, mon père, une personne très honnête, pensait qu'ils étaient aussi honnêtes que lui. Mais ils ont préféré donner la priorité à l'argent et perdre des vies plutôt que les bénéfices de l'entreprise.
La personne qui l'a rassuré fait partie des 8 employés qui ont été placés en détention provisoire il y a plus d'un mois. 4 ans plus tôt, la rupture du barrage de Mariana, à une centaine de kilomètres, avait provoqué la plus grave catastrophe écologique du pays. À l'époque, Vale co-gérait la structure. Eloa Magalhães est membre du mouvement des victimes de barrage.
À Mariana, le crime est resté impuni. Aucun directeur, personne de l'entreprise n'a été arrêté. Ici, on ne veut pas de la même impunité. Nous réclamons que les responsables paient pour leurs erreurs, pour ce grand crime qui a été commis. On utilise même le mot de massacre de Laval pour qualifier un des plus grands accidents qui impliquent des travailleurs. Nous pensons qu'il faudrait dénationaliser Vale pour que nos richesses naturelles bénéficient au peuple brésilien plutôt qu'au commerce international.
En faveur du peuple brésilien et non du marché international.
La structure même du barrage de Brumadinho était très risquée. Construit selon une technique qui consiste à faire augmenter la hauteur du barrage à mesure que les résidus miniers s'accumulent, ce type de barrage est le moins cher du marché. Selon Moacir Duarte, ingénieur spécialiste en gestion des risques, ce sont les dirigeants de l'entreprise qui ont été irresponsables.
Avec tout le capital et les technologies que l'entreprise Vale déploie dans le secteur de la production, c'est évident qu'elle avait les ressources financières et les compétences techniques pour faire ce qu'il y a de mieux en matière de protection de personnes. Et rien de tout cela n'a été fait. Quand on additionne la lenteur des décisions, la volonté d'ignorer les rapports, le fait de n'avoir rien fait pour corriger les défauts, d'avoir gardé le réfectoire en aval de la mine, Pour moi, tout cela montre qu'on a parié sur la vie des gens.
Des risques pris à cause de la puissance du lobby minier, selon Moacir Duarte, le puissant lobby de la boue, comme il est connu au Brésil.
Les entreprises minières font énormément de dons pendant les campagnes pour les gouverneurs, les politiques, et elles paient aussi beaucoup d'impôts. Donc, en fait, ces entreprises échangent des faveurs avec la sphère politique de sorte que celle-ci approuve des mauvaises décisions pour que les entreprises continuent à payer. C'est complètement immoral et si rien n'est fait pour empêcher cela, eh bien d'autres barrages vont rompre d'ici peu. Donc je pense que si les dirigeants effectivement ne sont pas punis pour donner l'exemple et montrer que tout cela va changer, alors on ne peut plus croire en la justice.
Dans la région du Minas Gerais, extrêmement riche en minerais, les barrages sont souvent proches de la population. Au Brésil, 84 autres barrages sont construits selon la même structure que celui de Brumadinho. L'Agence nationale des mines a annoncé leur démantèlement d'ici à 2023 pour que les tragédies comme celle de Brumadinho et Mariana ne se reproduisent plus. Sara Cozzolino, de retour de Brumadinho, RFI.
Et c'est l'heure de retrouver l'actualité d'outre-mer avec le journal La Première Caraïbe présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui en Martinique, deux écoles de la commune du Vauclin doivent faire face à une invasion de rats.
Oui, le Vauclin, c'est une petite commune de la côte sud-est de la Martinique, la côte atlantique. Alors une invasion de rats, évidemment, ça perturbe les enseignants et surtout, on peut les comprendre, les parents d'élèves, parents qui exigent que l'Agence régionale de santé de la Martinique mette en place un protocole de nettoyage efficace. Écoutez, Claude Bertrac, c'est le président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Il est au micro de Guy Etienne.
La FCPE est vigilante sur tout ce qui touche aux enfants, que ce soit un problème sanitaire, un problème scolaire ou autre. Effectivement, là, c'est un problème très, très, très grave. Nous avons alerté la mairie, nous leur avons demandé un entretien, nous avons alerté l'ARS et nous attendons un retour. Nous regrettons que les mesures d'urgence n'ont pas été prises comme ça devrait. Nous avons le sentiment, y compris les autorités rectorales ou municipales, n'ont pas pris l'ampleur du danger vis-à-vis des enfants. Nous exigeons, nous avons eu l'occasion de le faire à Sainte-Marie pour l'école Cachibou, que l'ARS puisse donner un protocole de nettoyage. Parce qu'il est hors de question de faire un nettoyage pour faire un nettoyage, de manière à ce que lorsque les parents renverraient leur enfant, qu'il soit en toute sécurité et les parents rassurés. Parce qu'il est hors de question qu'un enfant qui va pour s'enrichir ou pour être enseigné puisse ressortir avec une leptospirose, et nous savons les conséquences, et l'enfant peut perdre sa vie. En tous les cas, nous espérons que les autorités vont nous entendre et que les choses rentreront dans l'ordre.
Un tout autre sujet maintenant avec la compagnie aérienne régionale caribéenne LIAT, ça veut dire Leeward Island Air Transport, qui est en grande difficulté financière. La petite compagnie qui dessert notamment la Guadeloupe et dont le siège est à Saint John's, capitale d'Antigua et Barbuda, aurait besoin de 5 millions de dollars pour poursuivre ses activités. Colette Borda, la première Guadeloupe.
La compagnie se veut rassurante, précisant qu'elle allait continuer à effectuer ses vols dans toute la région et donc y compris en Guadeloupe. Et pourtant, ses difficultés financières ne sont pas résolues. 5 millions de dollars, c'est l'apport qu'il lui faut aujourd'hui pour rester à flot. Si la LIAT devait arrêter son activité, inutile de dire l'impact économique pour la Caraïbe orientale, fortement dépendante du transporteur, a déclaré Kefrolli, le premier ministre de Trinidad, réfractaire toutefois à la subventionner. Antigua, par la voix de son chef de gouvernement, Gaston Brown, compte en revanche mettre tout en œuvre pour sauver la compagnie régionale. Mais il faut que toutes les parties coopèrent, a-t-il indiqué. Les discussions sont ainsi en cours avec tous les États actionnaires afin de mieux répartir la charge et faire des ajustements. Près de 500 vols par semaine sont opérés par la LIAT sur un réseau de 15 destinations. Ses actionnaires majoritaires sont les gouvernements d'Antigua, de la Barbade, de la Dominique et de Saint-Vincent.
Bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît, très bon après-midi à vous aussi et à demain. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous être fidèles. On se retrouve donc demain 14h10, heure de Paris, 13h10 en temps universel. Très très bonne journée à tous.